ハリウスクープ。ハリウスクピー、
クロール・レヴィ・シュトロース、
ジャック・ショーソン。Notre deuxième jour, notre deuxième heure. Claude Lévi-Strauss, vous êtes, je le rappelle, l'invité unique de Radioscopie pour toute une semaine. Hier, vous nous avez parlé de l'Alsace, qui est le berceau de votre famille, de Bruxelles, où vous êtes né il y a 72 ans, de vos marches dans les Cévennes, de votre maison de Bourgogne, de vos chasses dans les civilisations d'avant, de l'idée que vous faites de l'ethnologie. Vous nous avez dit aussi vos émotions, vous vous êtes souvenu de votre première rencontre avec les Indiens du Brésil. Alors, à ce point occupé du passé, on pourrait penser, Claude Lévi-Strauss, que vous en oubliez l'avenir. Or, je suis curieux, combien nous reste-t-il de temps à vivre? Je parle de la société. Dans combien d'années, dans combien de milliers d'années, notre civilisation, c'est-à-dire celle qui nous accueille, aura-t-elle disparu, remplacée par je ne sais pas quoi? Par les insectes, peut-être.
Oui, alors là, vous me demandez quelque chose que l'ethnologue doit absolument s'interdire, à savoir de faire des prévisions. Parce que s'il y a une leçon que nous pouvons tirer de l'ethnologie, c'est celle de l'infinie diversité des sociétés humaines, des genres de vie, des coutumes, des croyances, et je dirais aussi de leur caractère absolument imprévu chaque fois que nous en abordons une nouvelle. Enfin, l'ethnologie va de surprise en surprise, et son rôle, naturellement, c'est de réduire ces surprises, c'est de trouver des explications, mais enfin, le premier sentiment est celui de l'imprévisibilité totale des manières dont les hommes décident de s'entendre avec le monde, de s'entendre les uns avec les autres et de s'entendre avec les réalités surnaturelles auxquelles ils croient presque tous, en tout cas ils ont tous cru, au moins dans le passé. Alors savoir ce qu'il adviendra de notre propre société, vraiment je n'en sais rien, et si on avait demandé à un de mes collègues du 19e siècle de dire ce qui se passerait au siècle suivant, bien nous pouvons être sûrs qu'il se serait profondément et totalement trompé.
Vous ne seriez pas content de revenir dans 100 000 ans, par exemple, pour voir un peu comment les choses se sont passées, sachant ce que vous savez aujourd'hui?
Je serais prodigieusement intéressé.
Quelle curiosité.
Écoutez, hein. Pas dans 100 000 ans, parce que dans 100 000 ans, ce sera tellement différent que vraiment il n'y aura plus aucun espèce de point de comparaison. Mais savoir comment ce sera dans un siècle,
ouais,
ou même dans 50 ans, parce que je ne serai plus là dans 50 ans.
On peut le prévoir dans
même
un siècle,
pas,
non?
Même pas. Est-ce que nos arrière-grands-parents auraient pu prévoir ce qui serait passé aujourd'hui? Non.
L'avion, la voiture.
Non, l'avion,
oui.
La voiture,
la pénicilline,
l'électricité, la radio, la télévision, non, tout ça était totalement imprévisible.
Je dis très vite votre fiche signalétique glorieuse. D'abord, je rappelle que vous êtes ethnologue, Claude Lévi-Strauss, que vous êtes anthropologue, que vous êtes académicien, avec le bicorne, vous savez, et puis la fameuse tenue verte, que vous êtes titulaire d'une chaire au Collège de France. Vous pensez l'abandonner l'an prochain, mais enfin, moi, je n'y crois pas.
Je serai à la retraite l'an prochain. Ça,
oui, mais qu'est-ce que c'est, la retraite? C'est un mot.
Ah bien, écoutez, c'est tout de même quelque chose d'important. D'abord, c'est n'être plus obligé de faire des cours chaque année. Et vous savez qu'au Collège de France, les cours représentent un poids extrêmement lourd parce que nous sommes entièrement libres de choisir le sujet, mais nous n'avons pas le droit de traiter deux fois les mêmes problèmes. Et donc, il faut inventer chaque année quelque chose de nouveau. Et inventer 10, 12 ou 18 cours sur un sujet qu'on n'a jamais traité, bien, ça représente des mois et parfois même une année entière de travail acharné.
Donc c'est votre œuvre aujourd'hui, le Collège de France? Vous travaillez autant que pour un livre.
Oh, je travaille probablement plus que pour un livre, et enfin en même temps, car au fond, si je regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans que je suis au collège, pratiquement tous mes cours sont devenus des livres. Et puis c'est ensuite la charge de mon laboratoire. Ou du moins, je dis mon laboratoire, c'est pas une façon correcte de parler, disons celui que j'ai été appelé à diriger, et où je passe la moitié de mon temps, très exactement, et en bonne partie occupé à des tâches administratives.
Et lorsqu'on dit laboratoire, on pense qu'il y a là un creuset, un fourneau, des feux, et que l'on fait des expériences.
Non, nous avons pris laboratoire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un endroit où on travaille. Ouais. Tout simplement.
Je me souviens que vous avez été accueilli à l'Académie française en 1974 et vous avez succédé à Henri de Monterland.
Oui, à Monterland.
Alors ce sont quand même deux mondes différents et je tendrais même à dire que ce sont deux hommes différents, lui et vous.
Oui, très certainement.
Non, je veux dire un ethnologue et un écrivain.
Oui.
Ou bien faites-vous une relation directe? Un homme de théâtre, vous n'avez pas fait de théâtre.
J'aurais beaucoup aimé. Et si j'en ai pas fait, comme je n'ai pas fait le roman, c'est parce que j'en suis incapable. Enfin, il y a peu de genres qui me paraissent aussi, je dirais, attirants et exigeants que le théâtre. Une pièce de théâtre où, d'abord, il doit y avoir une histoire, une intrigue bien construite, où chaque mot qui est prononcé doit avoir sa fonction et servir à la progression ou au dénouement de l'intrigue. Ça me semble être du très grand art et peut-être même le summum de l'art.
Mais vous dites, je ne peux pas écrire un roman. Vous n'avez jamais essayé, donc vous ne pouvez pas.
Mais si, j'ai essayé.
Non, mais vous n'avez pas publié. Il faut aller jusqu'à la publication.
Pour ça, il aurait fallu l'écrire jusqu'au bout.
Oui. Mais peut-on dire autant dans un roman, dans une pièce de théâtre, que dans un essai, dans une étude, dans ce que vous avez fait?
Je pense qu'un roman, qu'une pièce de théâtre, doivent essayer de démontrer quelque chose. Je ne veux pas dire une pièce à thèse. Il n'y aurait rien de plus loin de mes préoccupations et de mes goûts. Mais enfin, poser un problème et le résoudre, et montrer comment le résoudre. Et je dois dire que, enfin, quant à la télévision, enfin, passe une pièce de théâtre, mais non pas une adaptation, enfin, vraiment une pièce de théâtre qui a été filmée au théâtre, sur une scène.
Disons au théâtre ce soir.
Oui, et que je commence à la regarder, même si elle est très mauvaise, je ne peux pas m'empêcher de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que je veux savoir comment l'auteur s'en tire. Il a posé un problème et je veux savoir comment il le résout. Même s'il le résout de façon détestable, ce qui arrive trop souvent.
Claude Lévi-Strauss, vous avez fait la preuve que c'est dans l'homme même qu'il faut étudier l'homme. Il faut regarder ce qu'il fait, il faut le regarder de très près. Et je crois qu'on pourrait s'intéresser au rite. Bon, il y a encore aujourd'hui, pourquoi revenir au passé? Revenons au présent, plutôt restons dans le présent. Il y a les rites, par exemple la messe, il y a la fête du rugby ou du football ou du basket, enfin la fête sportive, il y a également la partie de cartes. Comment vous analysez tout cela? Cela fait partie d'une coutume, d'une tradition? C'est nécessaire, il est nécessaire que l'homme puisse s'installer quelque part pour faire sa messe?
Je ne sais pas si je donnerai au rite une extension aussi grande que celle que vous suggérez.
Parce trop général.
Oui, parce qu'au fond, vous parlez à la fois de rite. La messe est bien certainement un rite. Ou bien
cérémonie.
Une cérémonie de réception à l'Académie française est aussi un rite. Mmh. En revanche, une partie de football. Disons, c'est une fête, c'est un jeu, ça n'est pas exactement un rite. Mais pour répondre à votre question, je suis bien convaincu qu'une société humaine, quelle qu'elle soit, ne peut pas vivre d'abord sans règles. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, sans des règles dont la valeur soit symbolique, c'est-à-dire soit très chargé de signification qui serait difficile de transmettre à un grand nombre d'individus sous une forme ramassée. Je veux dire, on peut expliquer la signification de quelque chose, mais ça prend du temps, et comme ça prend du temps, ça se dissout, ça s'éparpille. Ça n'est pas cette appréhension massive et globale qui constitue en elle-même un choc et apporte une émotion. Et au fond, le rite, c'est ça. C'est un ensemble de mots, de gestes, d'attitudes, d'emplacements, de mouvements, enfin tout ce que vous voudrez, ça peut être très compliqué, mais qui ramasse en un temps relativement restreint et sous une forme massive des choses qui seraient compliquées de faire passer autrement.
Mais les règles bloquent quand même tout à fait les chemins de la liberté, et vous prétendez qu'une société ne pourrait pas vivre sans règles. Donc il n'y a pas d'autre société idéale. Nous avons simplement des exemples.
On ne peut pas jouer aux billes sans règles. Ouais. On ne peut rien faire sans règles. Et je suis assez agacé quand je lis ou j'entends dire, et je l'ai entendu dire, le mot est devenu célèbre, que le langage est fasciste parce qu'il a des règles.
Oui.
S'il n'avait pas de règles, nous n'arriverions pas à dialoguer en ce moment. Et c'est grâce à ces règles que nous pouvons échanger des idées et nous comprendre.
Nous échangeons dans un temps, dans un espace, et nous obéissons à des rites.
En tout cas, nous obéissons à des règles. Toutes les règles ne sont pas des rites si tous les rites sont des règles.
Il y a donc, Claude Lévi-Strauss, votre œuvre. Vous avez écrit beaucoup sur la vie familiale des Indiens. Vous avez écrit sur les structures parentales élémentaires de la parenté. Vous avez écrit Triste Tropique, nous avons un peu parlé hier. C'est un récit de voyage à la première personne. Ce sont les confessions d'un ethnologue. Il y a Anthropologie structurale. Il y a la pensée sauvage, les mythologiques. Et dans les mythologiques, il y a le cru et le cuit, il y a du miel au sang, l'origine des matières de table et l'homme nu. Mais moi, je voudrais vous demander autre chose. On parlera de ces livres dans le temps qui nous est donné, et dans les minutes qui vous sont accordées. Mais il y a peut-être autre chose, la difficulté de lire. Et je m'explique. Pour beaucoup, Claude Lévi-Strauss, vous êtes peut-être trop intelligent. Je veux dire, trop intellectuel, trop dans votre rêve, dans votre travail. Vous pensez, pour quelques-uns, qu'ils passeront le relais de la connaissance aux générations futures, mais je voudrais savoir si, lorsque vous écrivez, vous comprenez parfaitement tout ce que vous nous dites. Je veux dire, vous avez tout assimilé, et vous nous l'offrez. Alors là, vous êtes totalement vous-même, et vous écrivez librement. Mais après, lorsque vous lisez, vous comprenez-vous?
Ah, enfin, quand j'écris quelque chose, Dieu sait que je l'écris laborieusement.
C'est vrai.
Avec, plusieurs brouillons successifs. Ce que je livre à l'imprimeur, c'est le cinquième ou la sixième version. J'ai l'impression que j'ai compris. Et que j'ai dit plus ou moins bien, mais enfin que je suis arrivé à dire à peu près ce que je voulais. Sitôt qu'un livre a été imprimé, publié, que j'ai pris un peu de distance par rapport à lui, alors il me devient tout à fait étranger. Et au fond, j'ai le sentiment que un livre, c'est quelque chose qui a passé à travers moi, mais que moi, je suis resté là et que le livre, il est allé ailleurs. Ou bien que le livre est resté là où il était et que moi, je suis allé ailleurs, mais ça revient exactement au même. Donc, je me sens probablement aussi étranger à l'égard de ce que j'ai écrit, qu'un lecteur qui ouvre le livre pour la première fois.
Quel est pour vous le livre le plus important dans ce que vous avez écrit?
Je viens de dire pourquoi je me sentirais très mauvais juge. Disons, j'ai des petites préférences. Je crois que dans les quatre gros volumes des mythologiques, c'est le troisième qui me semble le mieux venu.
L'origine des manières de table.
L'origine des manières de table, pour des raisons d'ailleurs compliquées. Je ne sais pas, ça vaut la peine.
Pour quelle raison? Il faut quand même que vous le disiez. Pourquoi vous aimez les manières de table? C'est une manière de
Ah non, ce n'est pas une manière de table, parce qu'il s'agit, comme vous savez, pratiquement pas de manières de table dans le livre qui est apparu sous ce titre. Non, parce que, disons, le dernier, L'homme nu, c'est un livre que j'ai écrit à un moment où j'avais tellement peur de ne jamais arriver au bout de l'entreprise. Elle me semblait tellement démesurée que j'y ai empilé la matière de ce qui aurait dû être trois autres volumes. Mais je me suis dit, ces trois autres volumes, je les écrirai jamais. Alors il faut tout serrer. Parce que, bon, le premier, je tâtonnais encore passablement. Je ne me sentais pas absolument maître de la méthode que j'essayais d'utiliser. Que le deuxième s'en va un peu sur les bords au lieu d'être au centre du problème, tandis que le troisième semble avoir à la fois repris les problèmes fondamentaux que j'avais voulu introduire dans les deux premiers, être allé un peu plus loin.
Mais quel est le sens général des mythologiques ? Si vous devriez résumer tout cela en quelques phrases, vous diriez quoi ?
Alors je dirais que le sens général des mythologiques, c'est le sens de ce que j'ai toujours essayé de faire, et que c'est le même que celui que j'ai essayé de faire dans les structures élémentaires de la parenté. Et au fond, si j'ai passé de la parenté à la mythologie, c'est en bonne partie pour des raisons contingentes, parce qu'il se trouve que vers 1950, j'étais auparavant sous-directeur du Musée de l'Homme, et j'ai été élu à l'École pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses, à une direction d'études de religion comparée des peuples sans écriture. Je m'étais fort peu occupé de la religion jusque-là, mais enfin, nécessité faisait loi, et je me suis tourné vers la religion. Seulement, je n'ai pas eu du tout eu l'impression que je faisais quelque chose de nouveau. Et ce qui a dominé ma recherche depuis le début, c'est un effort pour essayer de réduire à un ensemble cohérent soit des coutumes ou des pratiques, soit des croyances humaines. Au fond, ce qui m'a amené à m'occuper de la parenté et du mariage, c'est que l'ethnographie montre que, sur toute l'étendue de la planète, les hommes ont sur ces problèmes les idées qui semblent à la fois les plus extravagantes et les plus arbitraires.
Les civilisations se ressemblent ou au contraire il y a des fossés très profonds entre elles ? Parce que je serais tenté de croire que des gens qui vivent vraiment à des milliers de kilomètres et que nous ne connaissons pas, peut-être vivent de la même manière que nous. Peut-être n'ont-ils pas le progrès que nous avons, mais ils ont les mêmes éléments de départ.
Ils ont sûrement les mêmes éléments. D'abord, ce sont des hommes et tout homme que nous sommes. Nous avons un cerveau et ce cerveau est fabriqué, constitué de la même façon et fonctionne selon des contraintes qui sont les mêmes chez tous les hommes. Disons que formellement, toutes les sociétés se ressemblent en ce sens que toutes ont des problèmes de production, de nourriture, de répartition des biens, de règles de mariage, de croyances en un ordre surnaturel, mais que, à l'intérieur de ce très grand programme, enfin, qui est commun à l'humanité tout entière, alors il y a une quantité incroyable de possibles différents et que chaque société fait un choix de certains possibles au détriment d'autres.
Claude Lévi-Strauss, je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être une difficulté à lire des hommes comme vous qui sont des savants, mais il y a également la simplicité de ce que vous écrivez. Et si on s'en tient à ce que vous avez souhaité faire, si on regarde d'à peu près votre œuvre, on s'aperçoit que c'est d'abord un problème de bon sens. Prenons les mythologiques et prenons un peu simplement le premier ouvrage mythologique, c'est-à-dire le cru et le cuit. Et je vais résumer d'une manière qui va vous paraître d'une naïveté exemplaire.
Non, je pense que ça m'aidera beaucoup.
Non, mais le cru, on pourrait dire que c'est la nature. C'est-à-dire c'est l'aliment qu'on prend. Et si on ne sait pas, on le mange de cette manière-là. Et le cuit, c'est déjà la culture, puisqu'on a pris ce qu'était le feu et que l'on a pris, par exemple, la pièce de viande d'un gibier tué quelque part et qu'on l'a installé sur le feu et qu'on a forcément un autre aliment.
Oui, mais vous voyez, ce n'est pas tellement évident.
Ouais.
Parce que si vous demandez à un spécialiste, enfin un préhistorien ou un paléontologue de nos propres sociétés de dire en quoi consiste essentiellement l'homme, enfin qu'est-ce que c'est que l'homme, et c'est un problème que les philosophes se sont d'ailleurs posés depuis très longtemps, enfin disons nous avons déjà ce problème chez les Grecs ou autres. Dans notre civilisation, Même en remontant très loin, nous avons deux réponses. Que l'homme est loquace, qu'il parle et que c'est ça qui le différencie des autres espèces vivantes. Et l'autre, c'est qu'il est fabère, c'est-à-dire qu'il fabrique des outils. Donc la coupure, nous l'avons mise soit dans le langage, soit dans la fabrication d'outils. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est que les Indiens des deux Amériques, puisque les mythologiques essayent d'être une grammaire du discours mythique américain, si vous voulez, mais comme exemple d'une grammaire d'un discours mythique quelconque. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils sont tous pareils, mais enfin, ils ont tous une grammaire. Eh bien, c'est que d'un bout à l'autre du continent, depuis l'extrême nord de l'Amérique du Nord jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, nous retrouvons la même idée que la différence entre l'humanité et l'animalité, que la différence entre la nature et la culture, c'est le feu de cuisine. C'est une idée qui n'existe pas chez nous. Donc, c'est très important de chercher pourquoi et de comprendre comment c'est de cette façon-là que des peuples différents de nous pose un problème qui est aussi notre problème.
Tout à l'heure, vous parliez du mariage et vous disiez que dans certaines civilisations, l'homme doit épouser la fille du frère. Oui. Mais on peut imaginer aussi, et on le sait, que l'homme doit épouser surtout une femme qui n'est pas de sa famille. Je crois que c'est mieux, non?
Les idées ont beaucoup varié à cet égard.
Oui.
N'est-ce pas, mon éminent collègue Duby vient de publier un livre sorti il y a quelques jours sur le mariage au Moyen-Âge.
Oui.
J'ai beaucoup appris. Et il montre qu'il y a eu une période relativement courte, autour du 10e, 11e siècle, où il y a eu un véritable fanatisme, si je peux dire, des degrés prohibés. Et puis, qui n'existait pas auparavant. Et puis qu'assez rapidement, les théologiens et les ecclésiastiques ont mis de l'eau dans leur vin et que les degrés prohibés ont été réduits à quelque chose de plus proche de ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Non, il y a des sociétés, en effet, où on considère que, aussi loin qu'on puisse remonter dans la parenté, ça crée un empêchement au mariage. Et même alors des empêchements, le mariage entre cousins au 4e ou 5e degré. Du moment qu'on peut tracer un parcours généalogique, le mariage est interdit. Et il y a d'autres sociétés, au contraire, je ne parle pas des quelques 20 sociétés connues dans le monde, une toute petite exception, où des rapports vraiment incestueux ont été autorisés pour des raisons particulières, pour maintenir la pureté de sang de dynastie royale, mais d'autres sociétés où, au contraire, le mariage idéal, c'est un mariage non pas entre cousins germains en général, mais entre certains types de cousins germains. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est mieux ou c'est moins bien.
Estimez-vous, comme le professeur Jacques Ruffier, que le métissage est un phénomène heureux?
Ça dépend ce que vous appelez métissage.
Un blanc,
oui.
Une noire. Une noire, un blanc.
Alors, je dirais ça, c'est un problème pour les généticiens et je me garderai bien de l'aborder. Je pense que ce qui est heureux, en tout cas, et ce qui est indispensable, c'est le maintien d'une très grande diversité et la création d'autant de diversité concevable et possible. D'autre part, il est bien certain que le régime entier de l'humanité est un régime de métissage. Enfin, même un homme dont on fait le père du racisme, d'ailleurs, me semble-t-il de façon un peu excessive, Gobineau, était convaincu que les races pures n'existaient plus et que toutes les races pures dont il postulait l'existence comme une nécessité logique à l'origine de l'humanité s'étaient déjà métissées entre elles et que nous n'étions plus en présence que de métis.
Claude Lévi-Strauss, je parlais à l'instant de solitaire, de solitude. Les conditions de vie de l'ethnographe, dites-vous, le retranchent physiquement de son groupe pendant de longues périodes. Par la brutalité des changements auxquels il s'expose, il acquiert, l'ethnographe acquiert une sorte de déracinement chronique. Plus jamais, il ne se sentira chez lui nulle part, il restera psychologiquement mutilé. Alors, avez-vous l'impression de n'être chez vous nulle part et d'être psychologiquement mutilé ? aujourd'hui ?
On pourrait se demander si c'est un résultat ou si c'est une des causes possibles de la vocation ethnographique. Car après tout, pourquoi est-ce qu'on devient ethnographe ? Je ne crois pas qu'il y ait une réponse simple à donner. Il y a des cheminements extrêmement divers.
Vous la donnez un peu quand même en prétendant que c'est une vocation authentique au même titre que la musique ou les mathématiques.
Je le crois, mais ici encore, ce peut être pour des raisons diverses. Si vous prenez quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, beaucoup admiré, et qui est morte il y a 3 ans, Margaret Mead. Margaret Mead a eu toute sa vie un tempérament de réformatrice. Et si elle est allée étudier des sociétés lointaines, c'était, je dirais presque dès le début, pour essayer d'en rapporter des leçons qui pouvaient servir à la réforme, à l'amélioration de notre propre société. Donc, disons, un mouvement centripète. Elle s'éloignait, mais pour revenir. D'autres ethnologues, au contraire, et probablement j'en suis, le sont devenus, parce que dès le départ, ils ne se sentaient pas tout à fait à l'aise dans la société et dans le siècle où le hasard de la naissance les avait mis. Cause, conséquence, très difficile à démêler. Est-ce que maintenant je me sens mutilé ? C'est peut-être un très grand mot et peut-être l'expression était un peu rhétorique. Mais ce qui est certain, c'est que après avoir vu pas mal de sociétés différentes, il m'est extrêmement difficile de réagir à la moindre situation dans ma propre société sans me référer tout de suite à ce qui se passerait ailleurs et à la façon dont on réagirait ailleurs. Alors, bon, c'est une mutilation si vous considérez qu'un homme ou qu'une femme, enfin, se doit à la société qu'il a formée, à laquelle il appartient. Ça peut être aussi, en un autre sens, un enrichissement et le problème, enfin la sagesse intime de l'ethnologue, ça va être de chercher constamment un équilibre entre les deux.
Enfin, dans un moment de désespoir, vous avez pu dire que vous ne vous sentiez nulle part chez vous, mais on peut poser la question, d'où êtes-vous ? D'Alsace, de Paris, de Bourgogne, de vos livres, du Brésil, des Indiens ?
Et d'où je suis, je pense que je suis très précisément de famille d'origine juive, où donc les études, la lecture, le livre...
La tradition ?
Non, pas la tradition, parce que mes parents étaient déjà totalement incroyants. Je dirais pas la tradition. Mais c'est la référence... au livre, la référence à la culture, n'est-ce pas, avait une place de première importance. Deuxièmement, j'appartiens à un milieu d'artistes du début du XXe siècle qui tenait encore par toutes sortes de liens au Second Empire qui a été la période d'éclat, enfin pour une partie de ma famille. Et alors, ça crée toutes sortes d'affinités. J'ai un jeune collègue américain qui, il y a quelques années, a écrit un livre à mon sujet et dans lequel il affirme que le seul moyen de me comprendre, c'est de me rattacher à la tradition qui va, disons, de Baudelaire à Mallarmé, en poésie, d'autres en musique ou d'autres en peinture. Bon, c'est fait de façon un peu naïve et avec un œil ethnologique, c'est-à-dire regardant les
c'est
choses
pas mal,
dehors
c'est pas mal.
Et en simplifiant de façon très brutale, mais je m'y reconnais assez volontiers. Enfin oui, j'appartiens probablement spirituellement à la deuxième moitié du XIXe siècle.
Mais vous aurez été le plus célèbre des Lévi-Strauss quand même. plus célèbre que le chef d'orchestre qui dirigeait les concerts à la course, Louis-Philippe.
Il s'appelait Strauss.
Oui, et pourquoi on a ajouté Lévy après?
Parce que mon père, qui était artiste peintre et qui s'appelait Lévy, a uni le nom, son patronyme, au nom de sa mère.
Vous parliez des livres et de la culture de cette famille. N'avez-vous pas regretté à certains moments, justement, d'être trop cultivé par rapport à beaucoup d'autres? Parce qu'il y a cette petite phrase qui me met la puce à l'oreille. La culture sépare mortellement l'homme de l'ordre de la nature.
Oui, enfin, je le crois parce que vous me le dites, parce que j'ai parlé Tristesse Tropique, qui est rouvert depuis quelques 20 ans ou 25 ans, donc je ne sais plus.
Oui, je veux dire, par là, on est sans doute moins passionné lorsqu'on sait trop de choses que l'on a la connaissance. Un homme, je veux dire, presque ignorant, qui arrive devant quelque chose de très beau, réagit peut-être de manière plus belle.
Oui et non. Je dirais qu'en effet, le grand danger de la culture ou de l'excès de la culture, c'est de nous couper du reste et de nous emprisonner dans une humanité qui est un peu fermée sur elle-même. Ça me paraît très frappant dans l'œuvre de Picasso, n'est-ce pas, qui vraiment, au fur et à mesure qu'elle s'est développée, a perdu de plus en plus contact avec la nature elle-même et n'est plus devenu qu'un discours de la peinture sur elle-même, n'est-ce pas ? D'un autre côté, une culture bien conduite, bien tempérée, si je puis dire, doit nous apprendre à récupérer toutes sortes de valeurs qu'une culture mal entendue risquerait de perdre.
Claude Lévi-Strauss, lorsqu'on a écrit une œuvre si considérable, je parle de la vôtre, on peut se permettre quelques vanités. Et je crois reconnaître cette vanité dans cette phrase. Et vous allez me dire si je me trompe, hein, parce que d'ailleurs, souvent, vous aimez bien mettre les choses au point. Alors vous écrivez et vous dites, ou bien les livres et articles qui me sont favorables reposent en général sur des malentendus, ou bien ils me sont hostiles et témoignent d'une grande ignorance. C'est-à-dire, dans les deux cas, vous ne reconnaissez pas ce que l'on peut écrire sur vous lorsqu'on écrit d'une manière méchante à votre égard.
Écoutez, je ne crois pas. D'abord, il ne s'agit pas de quelque chose que j'ai écrit, mais d'une interview, si je me souviens bien.
Mais qu'est-ce qu'on écrit sur vous ?
Bon, c'est une interview assez récente.
Ouais.
Et encore une fois, on n'est pas absolument responsable de ce qu'on se sent obligé de dire au moment où on le dit. On n'est pas tout à fait responsable non plus de la façon dont ça a été transcrit. Au surplus, je ne crois pas que j'ai jamais dit ça, ni que ça a été publié sous cette forme, mais je crois qu'il y a eu une petite interprétation. Je n'aurais certainement jamais dit « ce qui m'est hostile témoigne d'une grande ignorance ».
C'est joli comme phrase.
Non, j'aurais dit « ça me met en colère ». Et donc, ça me dérange dans mon travail et quelquefois ça ne le mérite pas.
Vous devez être terrible lorsque vous êtes en colère. Vous mettez souvent en colère ?
Il faudrait demander ça à mes proches, plus qu'à moi.
Votre femme pourrait le dire.
Oui, probablement qu'elle pourrait le dire. Mais je pense qu'en effet, je perds, si je me mets en colère, je perds assez facilement le contrôle de moi-même.
Vous avez souhaité,
ça n'arrive pas souvent.
Vous avez souhaité à un certain moment être le maître à penser d'une jeunesse.
Oh non, jamais, ça jamais, au grand jamais.
Vraiment ?
Non. Et d'ailleurs, regardez le laboratoire d'anthropologie sociale où se trouvent une trentaine de chercheurs qui sont là parce qu'ils ont été contents de travailler près de moi. Ben, il n'y en a pas un seul dont je puisse dire qu'il est mon disciple. Chacun travaille dans sa ligne en toute indépendance.
Vous avez été aussi un homme d'avant-garde. J'en veux pour témoignage Tristesse Tropique, l'un de vos premiers livres. Ou non, pas l'un de vos premiers livres, pas du tout. Non, mais enfin, un livre un peu différent des autres, peut-être. Parce que c'est déjà un cri d'alarme écologique. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la naissance des mouvements écologiques a dû vous faire plaisir. Ou alors peut-être vous a fait sourire, parce que vous aviez dit bien des choses avant tout ce remue-ménage que je dirais politique.
Oui, enfin, je me sens toujours très profondément écologiste. Je ne me sens pas en pleine sympathie avec les mouvements écologistes actuels, d'une part pour la raison que vous dites, à savoir qu'ils se sont très politisés, et ensuite parce que dans le domaine de l'action, ils témoignent d'un absolutisme qui me semble tout à fait irréaliste. Par exemple, aussi profondément attaché que je sois au respect de toutes les formes vivantes et aussi ardent que je me sentirais pour défendre les bébés phoques et les baleines, je ne crois pas qu'on peut raisonnablement s'inscrire en faux ou en ennemi réductible du nucléaire. Parce qu'il y a des choix à faire, parce que nous ne pouvons pas faire autrement que d'opérer certains choix. Nous ne pouvons pas imaginer que du jour au lendemain, notre société va vivre sans consommer de l'énergie et qu'il faut se dire de toutes les façons de produire de l'énergie au total, quelle est, elles sont toutes nocives bien sûr, mais quelle est la moins nocive.
Il vous arrive de lire des romans d'aventure ? Vous aimez l'aventure ? Déjà dans Triste Tropique, et nous en avons un peu parlé hier, vous parlez de la fin des voyages. Et vous sembliez condamner le voyage et vous dites même, par rapport à ceux qui prennent le bateau, que ce sont des excentriques aujourd'hui, tous ceux qui prennent le bateau d'ailleurs.
Non, ce ne sont pas du tout des excentriques, ça représente presque la majorité de la population.
Oui, mais enfin, vous les trouvez un peu bizarres. Vous voudriez
non, je ne trouve pas du tout bizarre. Je comprends très bien. Je comprends très bien.
Mais vous vous étonnez de leur sentiment. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans un port, ils ne crient plus terre, terre, terre. Ils demandent un bain, un bain, un bain.
Ah, mais non, ça, c'est une histoire tout à fait particulière du voyage
épique
que j'ai fait oui, pour quitter la France dans des conditions très difficiles après l'armistice et où, en effet, il y avait 350 personnes empilées sur un cargo. Qui n'était fait que pour transporter des marchandises et qui n'avait pas pu se laver pendant tout le voyage, ou pratiquement pas.
Vous savez, dans d'autres conditions, c'est la même chose aujourd'hui. Hein. Et lorsque vous dites que vous comprenez la passion, la folie, la duperie des récits de voyage, vous dites dans le même temps, moi je voyage intérieurement en moi, je ne veux plus faire ce genre...
Je dirais même que ces dernières années, j'ai recommencé à voyager.
Oui. Oui. Vous pourriez repartir demain ?
Mais je vais repartir en Corée cet automne.
En Corée cet automne ?
Oui.
Pour faire quelle recherche ?
Pour faire aucune recherche, pour prendre contact avec mes collègues coréens et voir la Corée, ce que j'ai très envie de voir et de connaître, parce que, étant allé deux fois au Japon au cours des trois dernières années, plus le Mexique, soit dit en passant, mais je me suis pris d'un très grand intérêt pour le Japon, qu'une partie de la culture japonaise vient de la Chine par la Corée, et que ça m'intéresse donc de connaître la Corée.
Claude Lévi-Strauss, j'aimerais que vous me répondiez quand même très très franchement. Vous avez été de ceux qui ont voyagé très tôt, vous avez été de ceux qui ont regardé très profond. Et puis,
il y a des gens qui ont voyagé beaucoup plus tôt encore.
Bon. Et puis, parce qu'il y a les voyages, parce qu'il y a les bateaux.
Il n'y a pas Marco Polo,
mais il est tout seul.
Et beaucoup d'autres.
Il n'était pas nombreux. Mais en revanche...
il y a eu beaucoup de
non, moins voyages. Qu'aujourd'hui.
Bon, il y a moins qu'aujourd'hui.
Les bateaux, les avions, et vous écrivez, et c'est là que vous êtes un peu triste, voyage, coffret magique aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors intacts. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. C'est-à-dire, en fait, vous vouliez garder tout cela pour vous, hein, un peu.
Non, je voulais, je dirais presque, le garder pour eux.
Je comprends un peu,
oui.
Hein.
Non, pour eux. Enfin, il est certain, si vous voulez, que notre civilisation, avec toutes ses grandeurs, et je ne voudrais en aucune façon sous-estimer ce qui fait, à mes yeux, sa valeur suprême, c'est-à-dire d'avoir fait la science. Eh bien, c'est, dans une certaine mesure, une civilisation, je dirais, virale. Non pas une civilisation de chair et de sang, mais qui n'a été capable que de transmettre sous une forme presque abstraite, n'est-ce pas, sa propre formule culturelle, comme le virus transmet sa formule génétique à d'autres, et a détruit ce qui faisait leur substance. Et ça, je le déplore parce que je suis convaincu que tout ce qui a fait dans le passé la grandeur de l'humanité, tout ce qui a fait dans le passé les grandes civilisations, vous parliez du métissage il y a un instant, c'est une certaine dose de métissage culturel. C'est que des sociétés qui étaient profondément différentes parvenaient tout de même à communiquer entre elles, sans trop communiquer non plus. Enfin, qu'il y avait un bon
équilibre,
un bon dosage, un bon équilibre. Et qu'il est extrêmement inquiétant dans la perspective de l'ethnologue qui est celle de la très longue durée, de voir disparaître cette diversité.
Quelles sont les œuvres qui vous ont influencé? Vous vous reconnaissez des maîtres, si vous dites très humblement que d'autres ne vous ont pas reconnu comme maître à penser. Vous avez vos maîtres, vos admirations.
Mais bien sûr.
Il y a qui alors là?
Oh, alors là, il y en a...
Ils sont nombreux, là.
Ils sont nombreux. Enfin, je ne sais pas si vous me demandez dans le domaine ethnologique ou sociologique particulier ou dans le domaine d'une culture plus générale.
Là, je ne pense pas qu'il y ait de domaine. Il y a des gens qui impressionnent, qui marquent à tout jamais une existence.
Bon, alors, ce qui m'a marqué à tout jamais, disons, c'est Rousseau, c'est Chateaubriand, c'est Proust et c'est Conrad.
Vous savez, Claude Lévi-Strauss, lorsque vous avez lancé les mots comme structuralisme, on s'est attendu au pire, c'est-à-dire on attendait même...
Mais ici encore, c'est pas moi qui ai lancé ça.
Oui, mais enfin, vous l'avez quand même...
Vous me taxez de vanité, puis je dois tout le temps vous dire
tout ce que vous n'avez pas fait.
M'accordez, ça n'est pas moi.
Alors, le structuralisme, vous le comprenez comme quelque chose dont on rend compte, c'est la prise en compte d'un fait humain, c'est quoi le structuralisme?
Permettez-moi de vous donner un exemple. Et cet exemple, je ne vais pas le chercher dans le domaine de l'ethnologie parce que ça m'obligerait à introduire toutes sortes de données, de notions qui ne sont pas nécessairement familières à ceux qui nous entendent. Et puisque je viens parler de l'explication de texte, je le prendrai dans le domaine même de l'explication de texte. Il se trouve que l'année dernière... j'ai publié un petit texte que probablement peu de gens connaissent, ont lu, sur une locution qui apparaît dans un poème d'Apollinaire, un poème célèbre, l'école chic, vous savez, le pré vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'empoisonnent, etc., etc. Et à un moment dans le poème, Apollinaire qualifie les colchiques de mères, filles de leurs filles. Et on s'est posé toutes sortes d'interrogations à ce sujet. Pourquoi les colchiques mères, filles de leurs filles? Alors après, beaucoup d'autres, bon, j'ai essayé d'appliquer une méthode qui m'est familière à un problème tout à fait étranger à mon domaine. Et je me suis dit, bon, si c'était dans un mythe, comment est-ce que je m'y prendrais? Bien, je m'y suis pris... de la façon suivante. D'abord, je me suis demandé, les colchiques, qu'est-ce que c'est exactement que les colchiques? Je veux dire, je sais très bien ce que c'est, j'en vois tous les ans dans mon jardin, mais qu'est-ce que c'est un peu plus loin? Et je me suis aperçu, en consultant des ouvrages de botanique, que les colchiques ont une place tout à fait particulière dans leur famille botanique, qui est la famille des Liliacées, et qu'elles ont un certain nombre de caractères singuliers. L'un de ses caractères, c'est que bien qu'elles produisent des graines, ce n'est pas normalement par des graines qu'elles se reproduisent. Elles se reproduisent par dédoublement du bulbe. C'est-à-dire que chaque année, il y a un plant qui pousse éloigné du précédent exactement de l'épaisseur du bulbe et que comme ça, la plante se balade et qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous ne pouvez absolument plus savoir lesquelles sont les mères et lesquelles sont les filles, n'est-ce pas? D'autre part... le colchique a ceci de particulier, enfin il y a d'autres plantes qui sont dans le même cas, que les fleurs apparaissent plusieurs mois avant les feuilles. Le colchique fleurit à l'automne et les feuilles poussent au printemps suivant, c'est-à-dire exactement le contraire de l'ordre que nous sommes habitués à considérer comme naturel. D'où l'appellation dans l'ancienne botanique de filius antepatrem, le fils avant le père, n'est-ce pas, qui nous donne une première indication. Mais ça n'est pas une indication suffisante, parce que l'expression traditionnelle qu'Apollinaire pouvait très bien connaître, parce qu'il était féru de vieux livres, l'expression traditionnelle est au masculin, colchique est également au masculin, et donc pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de le mettre au féminin? Alors, pour ça, il faut... disons, se placer à un autre niveau. Pour comprendre ça, il faut se dire, qu'est-ce que c'est que cette expression? Quelle est sa place dans notre culture et dans notre civilisation? Oh, elle remonte extrêmement loin. Ça remonte aux Indiens des temps védiques qui disaient que
le feu était le fils de lui-même parce qu'il s'engendrait, etc. Mais plus particulièrement chez nous, ça apparaît dans des écrits patrologiques, non pas de saint Augustin lui-même, mais qui sont reliés à son œuvre et qui sont appliqués à la Vierge Marie, laquelle est à la fois la mère de son fils, mais en même temps la fille de son père, puisque celui-ci est divin, et donc en ce sens, il l'a engendré. Et à partir de là, nous voyons l'expression fleurir dans toute la littérature arthurienne, cette littérature d'origine celtique, bretonne, qui date des 11 au 13e siècle, qui a connu d'ailleurs des développements encore très postérieurs, et qu'Apollinaire connaissait aussi parce qu'il a publié une version d'un récit arthurien, d'une histoire de Perceval. Voyez que, de ce point de vue, enfin, déjà, nous comprenons un peu mieux les choses.
Les Colchiques sont les enfants de la Vierge Marie, quoi.
Je ne dirais pas ça exactement. Mais si on fait un pas de plus et qu'on se dit quelle est la fonction des Colchiques dans le poème, alors on s'aperçoit que les Colchiques, et c'est la raison pour laquelle c'est le titre même du poème, symbolisent les yeux de la femme aimée qui empoisonne lentement le poète. Mais que dans le cours du poème, des renversements se produisent, et que ce sont tantôt les Colchiques qui symbolisent les yeux, tantôt les yeux qui symbolisent les Colchiques, pour donner des termes. Et donc que ce que dans notre jargon nous appelons le signifiant et le signifié...
Affreux entre nous.
Affreux, mais disons le symbole et la chose symbolisée s'engendrent réciproquement. Tantôt le symbole produit la chose symbolisée, tantôt c'est la chose symbolisée qui produit le symbole. Et par conséquent, à trois niveaux successifs, si vous voulez, celui de la botanique elle-même, celui que je dirais volontiers de l'ethnographie de la société occidentale, puisqu'il s'agit de l'usage d'une certaine figure de pensée dans notre civilisation. Et enfin, la fonction même du terme à l'intérieur du poème, tout ça correspond à l'expression utilisée par Apollinaire. Eh bien, une analyse structurale, c'est ça. C'est un effort.
C'est une enquête.
Oui, c'est une enquête, mais une enquête qui part de ce qu'il y a de plus concret, en l'occurrence la botanique, et qui essaye de s'élever progressivement jusqu'à ce qu'il y a de plus abstrait, c'est-à-dire la relation qui théoriquement peut exister entre le symbole et la chose symbolisée. Et dans le cas d'un poème, puisqu'il s'agit d'un poème, probablement ce qui nous procure, ce qui suscite en nous l'émotion esthétique, c'est que toutes ces données que j'ai mises à plat, en quelque sorte, que j'ai étalées dans une sorte de discours trop long, et je m'en excuse, se trouvent ramassées, empilées, comprimées les unes dans les autres, et que comme dans le rite dont nous avions parlé tout à l'heure, il y a une sorte d'appréhension globale qui se produit et qui est infiniment plus efficace que l'analyse qu'ensuite nous en donnons rétroactivement.
Claude Lévi-Strauss, hier, je vous ai parlé de l'enquête qui avait été réalisée par le magazine Lire, mais je n'avais pas les documents devant moi. Donc, je vous ai posé, j'ai plutôt dit quel était le problème, j'ai précisé la question, mais je crois que la question méritait d'être donnée d'une manière très complète. Alors, la question, on s'interrogeait, y a-t-il encore des maîtres à penser ? Et on a posé cette question à 600 personnes. Il y a eu 448 réponses, ce qui est important. Et la question précise était celle-ci. Quels sont les trois intellectuels vivants de langue française dont les écrits vous paraissent exercer en profondeur le plus d'influence sur l'évolution des idées, des lettres, des arts, des sciences ? Alors, ces gens-là ont répondu massivement, parfois en avouant leur embarras, mais en reconnaissant toute l'influence de Lévi-Strauss, c'est-à-dire de vous, de Raymond Aron et de Michel Foucault. Et vous arrivez largement en tête. Alors, je vais vous dire un peu qui vient après vous. J'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Donc, vous êtes le maître à penser pour beaucoup de personnes, pour des centaines de personnes. En numéro 2, Raymond Aron. En numéro 3, Michel Foucault. En numéro 4, Jacques Lacan. En numéro 5, Simone de Beauvoir. En numéro 6, Marguerite Yourcenar. Et Michel Tournier est en numéro 8. Et Bernard-Henri Lévy, le jeune philosophe, est en numéro 9. Comment regardez-vous un sondage comme celui-là? Vous êtes content d'abord?
Je ne suis pas content en ce sens qu'il me pose plus d'interrogations qu'il ne m'apporte de gratification,
oui.
Disons. Je comprends mal. Je comprendrais très bien qu'on classe Raymond Aron et Foucault, je m'occupe que des trois premiers lorsqu'on court, qu'on classe comme des maîtres à penser, parce que l'un et l'autre ont pris à bras-le-corps des problèmes qui sont des problèmes de notre société,
oui,
auxquels tout un chacun nous sommes confrontés, et qu'ils ont indiqué des réponses qu'il était possible de leur donner ou des formes d'action qu'il était possible d'adopter. En ce qui me concerne, je n'ai jamais rien fait de tel, et disons, chaque fois qu'on a essayé de m'y pousser, je me suis au contraire retiré avec empressement et crainte. Donc, autant, me semble-t-il, il serait légitime de dire que Sartre a été, pour toute une génération et peut-être pour plusieurs, un maître à penser, autant je ne crois, en ce qui me concerne, absolument pas l'avoir été.
Claude Lévi-Strauss, on s'aperçoit en tout cas que ce temps, le nôtre, notre siècle, là, est celui des hommes de science spécialisés et rigoureux. Il y a parfois quelques romanciers qui viennent sur la liste, mais ils viennent comme des courants d'air, et Gilles Lapouge le fait remarquer. C'est vrai que c'est quand même le triomphe des hommes de science, des historiens aussi. Et là, nous sommes bien obligés de constater, vous êtes en tête, et largement en tête, et Raymond Aron, avec ce que vous dites, est deuxième, et le troisième, c'est Michel Foucault. Louis Aragon, par exemple, arrive 15e. Vous trouvez cela étonnant ?
Je ne trouve pas étonnant qu'on se soit tourné de préférence au cours de ces dernières décennies vers des hommes de science, et je dirais pour plusieurs raisons. La première, ça a été probablement cette prétention qui nous apparaît aujourd'hui un peu démesurée des grands écrivains, poètes ou romanciers du XIXe siècle, d'être des phares qui pouvaient guider l'humanité. Peut-être était-ce concevable à cette époque. Je veux dire, tout de même, les sociétés humaines, je veux parler des sociétés occidentales, étaient, je dirais, moins compliquées qu'elles ne le sont devenues et soumises à l'action d'un nombre moins considérable de variables. Enfin, il ne s'agit pas de savoir s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort. Je crois qu'en tout cas, c'est un rôle qui devient de plus en plus difficilement concevable dans un monde tellement compliqué, qui change tellement vite. Et nous en parlions il y a un instant, où la communication s'est fait tellement intense qu'un individu ne peut pas prétendre maîtriser toutes les données. Bon, d'autre part, il y a eu le développement véritablement fantastique du savoir scientifique au cours du dernier demi-siècle et qui a donné à la science un prestige sur lequel il y aurait d'ailleurs
beaucoup à dire.
Oui, beaucoup à dire. Non, pas du tout que j'essaye d'embarquer ce qu'on appelle indûment les sciences humaines dans le wagon des sciences physiques ou des sciences biologiques. Je sais très bien que nous ne nous appelons des sciences que par imposture. Mais en tout cas, on a pu avoir raisonnablement le sentiment que les hommes qui pouvaient apporter quelque chose n'étaient pas ceux qui essayaient de trop embrasser,
mais ceux qui essayaient de creuser un domaine plus restreint. En ce sens-là, oui, je comprends la tendance actuelle qui, d'ailleurs, probablement tend à s'affaiblir.
Vous reconnaissez que, s'il avait été vivant, Jean-Paul Sartre aurait pu vous battre, c'est-à-dire être en tête...
De je ne sais pas combien de longueurs.
Oui, mais vous ne l'avez pas tellement aimé, Jean-Paul Sartre. Vous n'avez pas tellement aimé la pensée sauvage, Jean-Paul Sartre.
Non, je ne me sens pas du tout en sympathie avec la pensée de Sartre. Je reconnais néanmoins que c'était une personnalité d'une envergure exceptionnelle, capable de s'exprimer dans un nombre de registres auxquels moi-même je n'oserais jamais rêver, qui a pris des positions qui étaient bonnes ou mauvaises, mais qui témoignaient d'un grand courage personnel, et qui avait un immense talent, et qui a effectivement joué le rôle de maître à penser. C'est un fait que je constate.
Enfin, vous vous réjouissez de penser que la science peut répondre, cette fois-ci, aux questions des philosophes.
Elle ne peut pas répondre exactement aux questions des philosophes. Je dirais qu'elle peut leur fournir certains thèmes sur lesquels il serait utile qu'ils réfléchissent.
Claude Lévi-Strauss, nous allons passer d'autres heures ensemble. Celle-ci est terminée, c'est notre deuxième heure, c'est notre deuxième jour. Demain, nous parlerons de l'objectif ultime des sciences de l'homme. La question « Tout est-il joué ? » Y a-t-il des chances de survie ? En sommes-nous aujourd'hui à un point d'inertie ? Et puis, il y a cette phrase que vous prolongerez peut-être un peu. Vous disiez « Le problème ultime des sciences de l'homme consistera un jour à ramener la pensée à la vie ». On en parlera demain. Alors rendez-vous demain et merci Claude Lévi-Strauss.
À demain.